Avant de lancer l'excursion, on tenait à vous dire que Tête Beaulieu est soutenue par la Maïf, assureur de référence des tiers-lieux en France.
Pourquoi ? Parce que comme nous, la Maïf souhaite mettre en lumière les belles initiatives de nos territoires, en local et au national. Et ensemble, nous sommes convaincus que les tiers-lieux sont des solutions concrètes pour faire bouger les lignes et inventer une société plus solidaire, collective et durable.
Retrouvez plus d'infos sur la protection et l'accompagnement de la Maïf pour tous vos projets, vos lieux, dans la bio de cet épisode. Et maintenant, jingle !
Dans le commun, je vois quelque chose d'un lien, d'une ouverture, de portes qui s'ouvrent, d'échanges.
L'objectif, c'est de penser à un futur commun avec des habitants qui n'ont plus foi peut-être en l'avenir et de leur montrer que c'est tout à fait possible et envisageable.
Cette fête aujourd'hui, c'est partageons, mutualisons nos expériences de mise en acte de la sauvegarde de nos communs pour construire à travers ces communs une société qui soit juste et heureuse.
Salut, salut, ici Déborah de Tête Beaulieu, le podcast des lieux qui changent le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode hors série Tout chaud, tout chaud.
Coucou tout le monde, c'est Anaïs. Et oui, en plus de nos sujets préférés, on se dit qu'au travers de ces épisodes hors série, on a envie de vous faire un petit pas de côté et de découvrir de nouveaux sujets avec lesquels il peut y avoir un lien avec les tiers-lieux.
Et cette fois-ci, on a eu envie d'explorer le thème des communs. À l'invitation de la ville de Grenoble, on a participé à la 4e édition de la Biennale des villes en transition, en juin 2023. Et en gros, c'est un événement qui rassemble les acteurs et les actrices du changement, les citoyens, citoyennes, les élus, pour répondre aux défis du 21e siècle.
Mais attends un peu, je crois qu'on devrait rembobiner là. Qu'est-ce qu'une ville en transition ?
Une ville en transition, c'est un truc qui est arrivé en gros en 2005. Un certain Rob Hopkins, je sais pas si ça te parle.
Si, si, un peu.
Bon, lui, c'est un enseignant britannique en permaculture. Et cette année-là, il initie le mouvement des villes en transition pour que des transitions démocratiques, sociales, environnementales, économiques et énergétiques puissent avoir lieu. Et son objectif, c'est vraiment de mettre les citoyens et citoyennes au centre de ça.
Et comment ça se fait que Grenoble a décidé de s'inscrire là-dedans ?
Eh ben, je crois qu'ils ont fait une rencontre avec lui et un jour ils se sont dit « bah nous on va créer un réseau des villes en transition ». Donc ça veut dire que c'est les villes qui ont envie de s'intégrer là-dedans. Allez, on vous embarque pour 3 jours au rythme de rencontres, de cultures, d'échanges et de découvertes plus dingues les unes que les autres.
On va pas s'ennuyer nous. Ah bah tu vois, ça m'avait manqué les montagnes tout autour de Grenoble. Dès que tu lèves la tête, roup, t'envoies une nouvelle. C'est quand même magique comme panorama. Bon par contre, dis-moi, à Grenoble, il y a quand même un peu l'effet cuvette, non ?
La remarque classique. Fallait que tu la fasses. Mais bon, c'est vrai que c'est pas tout à fait faux. Mais sinon, je peux te donner une autre anecdote si tu veux, hein, sur Grenoble. Est-ce que tu savais que c'était le berceau de la Révolution française ?
Alors là... pas du tout.
Eh bien ma chère, le 7 juin 1788, c'est une date à retenir. Ce jour-là, les habitants de la ville ont décidé de jeter des tuiles depuis les toits sur les troupes du roi Louis XVI. Et la suite, bah tu la connais avec Versailles, tout ça quoi.
Eh mais c'est peut-être de là alors que tu tiens ton petit côté rebelle.
Oh, tout de suite les attaques.
Et c'est pour ça que la ville a voulu créer la fête des tuiles en 2015 alors, j'imagine, pour célébrer cette journée historique.
Exactement, mais je crois que cette année c'est un peu spécial parce que les deux événements, la Biennale des villes en transition et la fête des tuiles, sont rassemblés pour la première fois. Mais je me demande bien pourquoi, tiens.
Eh bien bonjour, moi je suis Anne-Sophie Olmos, je suis élue en charge des communs à la ville de Grenoble. Je suis aussi en charge de la commande publique et je suis en charge du cycle de l'eau à la métropole de Grenoble-Alpes. La fête des tuiles et la Biennale des villes en transition, entre ces deux événements, on a des points communs. Il y a une volonté de se retrouver, de partager et de mettre en lien l'histoire de notre commune avec la fête des tuiles, voilà, qui rappelle l'histoire de la Révolution, et son existence réelle à Grenoble, avec les mouvements des villes pour demain. Dans quelle dynamique on s'inscrit, qu'est-ce qu'on veut dire, comment on fait pour aller plus loin, accélérer les transitions, aller plus loin ensemble avec les habitants, et s'inscrire voilà, dans un mouvement dynamique. À Barcelone, ils disent les villes sans peur, les fearless cities. Mais ça me parle bien parce que finalement, quand on se retrouve avec d'autres villes et les habitants, on se dit comment on fait pour aller plus loin que ce que nous permet la législation, les contraintes administratives. Et du coup, on est aussi des habitants et des élus et des communes sans peur. On veut dépasser les contraintes.
En même temps, si on s'attend que tout ça se fasse tranquillement, on n'est pas rendu, Simone. Hein, bon, mais sinon, le sujet des communs, toi, ça te parle?
Un peu. Mais de là à te sortir une définition précise, non, je préfère m'en remettre aux experts, clairement.
Ah bah ça tombe bien, j'en vois 2-3 qui traînent là-bas. Je pense qu'on peut aller leur poser quelques questions.
Bonjour, je suis Alexandre Monin, je suis philosophe. Je dirige une formation qui s'intitule le Master of Science Stratégie et Design pour l'Anthropocène et j'ai co-initié un courant, la redirection écologique, avec mes collègues Emmanuel Bonnet et Diego Landivar. Alors quand on parle des communs, ça m'évoque à la fois un travail théorique, le travail notamment d'Einar Ostrom, l'idée qu'il y a des ressources qui sont gérées collectivement par des communautés, des collectifs qui se donnent démocratiquement des règles de gouvernance pour le faire, voilà, pour donner la caractérisation traditionnelle des communs, qui a à mon avis d'ailleurs pas mal de limites, mais ça m'évoque aussi évidemment un mode de politisation que moi j'ai rencontré au cours des années 2010, on va dire, notamment dans des tiers-lieux. Et ça m'évoque donc des leviers très concrets pour agir, pour transformer le rapport à la propriété, le rapport aux usages, les modèles économiques. Imaginez aussi, à l'interface avec les questions environnementales, comment préserver des ressources, notamment par rapport au commun naturel. Mais ça me renvoie aussi à une activité qui a été la mienne pendant longtemps, puisque j'ai travaillé une quinzaine d'années sur des questions liées au numérique, et que le numérique est une technologie, un paradigme dans lequel finalement les communs ont trouvé une grande place avec notamment les communs numériques, Wikipédia, certains logiciels libres, etc.
Je m'appelle Federica Gatta, je suis architecte, urbaniste, enseignante-chercheur à l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine de Grenoble et je travaille sur les questions de participation des citoyens aux projets d'aménagement. En commun, comme je disais, c'est une ressource qui est partagée et qui est gérée par une communauté qui est variable, qui peut inclure des personnes privées, des groupes, des communautés différentes, qui veillent à que cette ressource soit partagée, qui soit ouverte, qui reste ouverte à l'usage de tout un chacun et qu'elle ne soit pas... qu'elle ne soit pas marchandisée, qu'elle reste gratuite, quoi. Et le commun, ça ne se décrète pas, en fait. C'est pour ça que moi, je préfère parler de commoning. C'est plutôt un processus qui peut marcher à un certain moment et après se délaisser, après reprendre. C'est très, très difficile de décréter qu'est-ce qu'un commun. Des fois, on a des cartographies des communs qu'on essaie de faire sur des villes ou même au niveau européen. Il y en a de plus en plus. Mais en fait, on se rend compte que ça raconte pas vraiment grand chose. En fait, il faut raconter les processus, il faut raconter les histoires, parce que l'une des idées du processus de commun ou de commoning, c'est d'extraire des ressources des pratiques marchandes, quoi, de pouvoir les extraire de toutes les logiques de marché qui existent. Et quand on parle de bâti dans les villes, c'est toujours un point très difficile parce que le foncier, c'est une grande source de marché.
Mais tout ça me questionne quand même pas mal par rapport au tiers-lieu, hein.
Moi aussi. Ça remet en cause pas mal de choses. La propriété de ces lieux et les modes de gouvernance aussi.
Tu vois les femmes avec les grandes robes blanches, avec des ceintures rouges et les visages maquillés de peinture tribale ? Elles sont magnifiques.
Mais je crois que ce sont les femmes Sarayaku. Elles viennent d'un peuple qui vit en pleine harmonie avec la forêt d'Amazonie tout au sud de l'équateur. Depuis plusieurs décennies, il défend cette forêt vivante contre la construction de puits de pétrole.
Ah, mais c'est elle ! Eh ben, on m'a beaucoup parlé de leur venue, tu vois.
Et c'est quoi leur rapport au commun, à ton avis ?
Alors, je suis Myriam Laïdouni-Denis, je suis conseillère régionale écologiste donc en Auvergne-Rhône-Alpes. Et je suis ici parce que depuis 2019, je suis en lien avec la communauté de Sarayaku, et notamment la délégation de femmes, mise en lien suite à nos recours respectifs dans nos deux bouts de forêt, moi dans les champs barrants, elle en Amazonie. Et c'est parce qu'il y a eu des luttes à la fois sur le terrain, mais conjuguées avec des recours juridique qu'on a obtenu gain de cause. Alors, comme elle le disait, des gains de cause qui sont temporaires, puisqu'on n'est pas, on n'est pas au bout de nos peines. C'est au centre de notre lien, puisque, comme je disais, Sarayaku, le commun est central. La société, elle est basée sur la question des communs. Et dans les communs, il y a aussi la culture, il n'y a pas seulement les biens matériels, il n'y a pas seulement les ressources vitales et naturelles. Et nous, eh bien, la notion des communs, elle est quand même très limitée. Et en tout cas, elle va pas, elle est très liée à la propriété et à la propriété privée, notamment, mais parfois aussi à la propriété publique. Mais en tout cas, la notion de propriété. Et la question de se dire, finalement, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, Elle est propriété de tous, d'un commun inconditionnel. Et là, c'est plus compliqué. On le voit bien déjà, la défense de l'eau dans le domaine public, ça fait partie des moyens qu'on a dans le cadre de notre système politique pour que l'eau reste dans les communs. C'est ce qu'on a vu avec les Sarayaku, c'est ça, c'est l'autonomie et comment la sauvegarde de nos communs de manière ensemble, de manière collective, eh ben, elle permet d'avoir un pouvoir qui est réparti et d'empêcher tous les autoritarismes, les barbaries et toutes les dérives terribles qu'on connaît bien. Et donc, on a cette différence de conception, de conscience du fait que les communs garantissent pas que notre survie, mais notre vie, parce que dans survie, on évince presque le bonheur, quoi. Et même si le bonheur, c'est aussi un commun, parce que je suis intimement persuadée qu'on ne vit pas très longtemps si on n'est pas heureux.
Bon, ben, la claque, quoi. C'est fou comme on a vraiment tout oublié dans nos sociétés occidentales, je trouve. Notre cher capitalisme a tellement cultivé le syndrome de la propriété privée, mais ce peuple défend clairement d'autres manières de faire. Je t'avoue que ça me déprime parfois de voir là où on en est arrivé.
Je suis tellement d'accord avec toi. Mais en même temps, regarde, il y a quand même des gens qui se bougent les fesses pour changer le système.
En tout cas, la vision des communs est bien différente entre nos populations et celle des peuples premiers. On a tellement à réapprendre d'eux.
Ouais, ça c'est sûr. Mais bon, là c'est pas le tout. Moi j'aimerais bien comprendre un peu plus le schmilblick des communs. On n'arrête pas de parler de communs. Et là j'ai vu qu'il y a une conférence de l'Assemblée des communs, juste en face, sous les arbres. Donc je te propose qu'on aille glisser nos oreilles. Hein.
Alors, je m'appelle Mélia Rodriguez, j'habite à Grenoble. Aujourd'hui, je travaille sur le développement de l'agriculture sur le massif, sur la chaîne de Belledonne. Il y a vraiment un enjeu de lien entre se reconnecter à ce qu'on mange, se reconnecter à son assiette. Et au niveau de la chaîne de Belledonne, on essaye de travailler là-dessus, à la fois sur des questions d'éducation à l'agriculture, via par exemple la semaine du goût, où il va y avoir des agriculteurs et des agricultrices qui vont venir dans des écoles pour faire goûter du miel, tout simplement, qui a été produit par les abeilles à des enfants, expliquer leur métier, en fait, remettre du lien. Les communs, ça, pour moi, ça m'évoque du collectif, ça m'évoque via des outils collectifs, en fait, on peut favoriser un projet agricole, par exemple, donc faire des associations pour que le coût à payer, par exemple, sur un labo de transformation soit moins cher pour un agriculteur qui...
qui veut faire ça tout seul, et ben en fait il y a une possibilité de peut-être de faire ça en commun. Les communs, c'est aussi de l'échange, donc de la sensibilisation, de l'écoute, du partage. Donc c'est hyper important finalement pour tous les enjeux que j'ai pu développer juste avant, pour remettre du lien en fait, vraiment cette remise de lien et qui permet de comprendre les enjeux de chacun et découvrir le métier des uns et des autres et s'entraider et aller vers du mieux quoi.
Reconstruire du lien et des relations sociales. Moi, ce que je retiens, c'est que le lien à l'autre doit évidemment précéder toute forme de commun.
Et c'est justement ce qui se délite dans nos sociétés. On se rencontre plus, bordel. Ça explique clairement pourquoi on a délaissé aussi les communs.
Au fait, j'ai rencontré une participante de la Biennale qui sortait d'une conf. Je lui poserais bien 2-3 questions, savoir un peu ce que ça donne le sujet commun en ville, tu vois.
Je m'appelle Jeanne, j'habite à Grenoble depuis longtemps et je passe ici parce que je m'intéresse pas mal aux thématiques écologiques. Voilà, la question aussi des lieux communs, du collectif, de tout ce qui peut permettre de recréer un peu du lien dans la société. Donc voilà, c'est la raison de ma présence ici. Là, je viens d'assister à une conférence qui parle des communs, s'appelait « De l'Équateur aux Alpes, la préservation des communs », qui avait une définition assez restreinte, mais qui, moi, me va bien. C'est l'ensemble des éléments naturels qui devraient appartenir à toutes et tous, dont nous avons toutes et tous besoin pour vivre. Voilà, c'est la question de l'eau, c'est la question de l'air, c'est la question des éléments naturels. Ouais. Et puis les communs aussi, on peut... agrandir un peu au-delà des choses naturelles avec juste les espaces communs de nos villes, les lieux publics, des lieux de collectifs. L'idée de redonner à nos villes qui sont très 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 balisées des lieux de commun, je trouve ça intéressant. On voit ça un peu avec la réintroduction quand même de, je sais pas, devant les écoles de rues piétonnisées ou juste des parcs en ville, mais... Je trouve que la ville, elle est tout entièrement privatisée ou occupée par des espaces réglementés. Il y a la route, il y a la maison, il y a le magasin. Et laisser en ville, ou hors de ville évidemment, mais des lieux sans objectif autre que ceux de se rencontrer, d'être là, de créer du lien et du commun, je trouve ça chouette. Il y a aussi les cafés et les bistrots, qui sont quand même des lieux privés, mais des lieux dans lesquels, il me semble, on peut faire du commun. Moi, j'aime beaucoup y aller seule et... soit pour lire, mais soit quand je pose mon livre, ben en fait très vite il y a un copain que je connais pas, mais un gars de la table d'à côté qui va poser des questions, ou alors la barman qui vient papoter un peu. C'est un lieu aussi où peut se nouer vraiment quelque chose de commun. Voilà, c'est le lieu que j'aime bien fréquenter.
Je m'appelle David Gabriel Baudinier. Je travaille pour une organisation qui s'appelle Next Planning, qui est basée à la Villeneuve de Grenoble. Et qui a joué un rôle en 2016 lors de la création de l'Assemblée des communs de Grenoble. Alors, l'Assemblée des communs consiste à un espace où des personnes qui contribuent à des communs dans l'agglomération grenobloise se rencontrent pour pouvoir échanger sur leurs pratiques, parce que la particularité de ce mouvement, c'est qu'il est très divers. Au-delà de l'espace public, des communs urbains peuvent être aussi en fait des bâtiments qui sont occupés par des personnes qui en fait réalisent dans ces bâtiments un certain nombre d'activités. Alors ça a beaucoup croisé le mouvement squat, le mouvement d'occupation des bâtiments publics, mais petit à petit, en particulier par l'Italie et par l'Espagne, des personnes ont commencé à appeler les squats en fait des communs urbains. En fait, on prend soin des ressources qui sont vides et on y mène en fait un certain nombre d'activités qui produisent beaucoup en fait de valeurs, mais pas au sens marchand en fait, hein, de liens. Il y a beaucoup de cultures en fait underground qui sont nées en fait dans ces lieux-là. Il y a des courants musicaux, des courants littéraires, du cinéma. des courants politiques qui sont nés à cet endroit-là, des réflexions. Donc c'est beaucoup plus en fait que simplement quelque chose qui serait légal ou illégal.
C'est hyper intéressant la manière dont il explique ça. Moi qui baigne pas mal dans le monde de la musique, tu sais, c'est sûr qu'il y a énormément de courants artistiques qui sont nés de là-bas.
T'as entendu aussi ce que disait Jeanne tout à l'heure sur les bistrots et les cafés comme pouvant être des communs ?
Mm-hmm.
C'est justement ce que racontait le sociologue Ray Oldenburg, le monsieur tiers-lieu. Pour lui, les cafés sont ces troisièmes lieux entre la maison et le travail.
Oui, même si c'est quand même bien différent de ce qu'on appelle tiers-lieu aujourd'hui, non ?
Oui, bien sûr. Par contre, le temps file, faudrait qu'on creuse un peu le sujet de pourquoi la ville de Grenoble a voulu lancer une mission commun.
Je suis Xavier Perrin, je travaille à la mission commun de la ville de Grenoble. Et donc effectivement, dans le cadre de la Biennale, on organise des ateliers, des rencontres autour des problématiques de commun. Il y a un stand commun d'ailleurs, et puis il y a des commoners qui sont présents. Les communs, c'est des instants et des espaces de partage, alors de solidarité éventuellement, mais aussi de définition de règles de vivre ensemble et de préservation de ressources et éventuellement maintenant plus d'entité naturelle. Enfin, donc il y a une sorte d'extension du concept. Donc pour une ville, c'est pas forcément un concept qui est trop habituel, mais il se trouve qu'à la ville de Grenoble, on a une commande politique avec une élue, Anne-Sophie Olmos, qui a porté ce sujet. Et donc aujourd'hui, on essaye depuis quelques années de faire infuser le concept au sein de l'administration et d'avoir une meilleure attention vis-à-vis des communs à l'extérieur de l'administration. Il y a par exemple tout un chantier autour de cela. Donc c'est comment finalement par des partenariats avec les citoyens, la ville finalement a des démarches plus horizontales et accueille la volonté des habitants de prendre soin d'une rue, d'une place, d'espace vert, avec aussi maintenant une nouvelle façon d'intégrer les habitants dans la préservation aussi de certains bâtiments. Donc on est parti des espaces publics plutôt extérieurs, et maintenant effectivement il y a une préoccupation pour respecter la place des habitants, des occupants de lieux, et effectivement déterminer des gouvernances plus ouvertes, plus accueillantes pour l'initiative, on va dire. En Italie, ils appellent ça les citoyens actifs. En fait, les communs, pour nous, il y a deux entités. Il y a des communs qui seraient autonomes, hein, et pour lesquels la ville, finalement, a plus un rôle d'appui, de respect, de bienveillance. Donc, finalement, on n'a pas forcément un rôle proactif. Par contre, elle ne doit pas être là pour freiner l'éclosion et la vie de ces communs. Donc ça, c'est des structures qui, pour certaines même par nature, n'ont pas du tout envie que l'acteur public s'y intéresse. Ça peut être effectivement des formes de squat, de lieux autogérés, etc., qui finalement veut qu'on les laisse tranquilles, en fait, et qu'on puisse effectivement laisser l'innovation, la créativité de ces lieux se développer.
Bonjour, moi je suis Anne-Sophie Olmos, je suis élue en charge des communs à la ville de Grenoble. L'idée au départ, c'était de mettre en avant l'histoire de la ville de Grenoble à travers la vision des communs, de regarder quelles étaient les expériences autour des communs. On a plein de choses, on a par exemple l'autopartage avec Cities, on avait le Cairn, la monnaie locale, on a pas mal de choses autour du numérique, on a pas mal d'acteurs autour du numérique libre à Grenoble, donc voilà, c'est les exemples auxquels on pense assez rapidement, et sur des thèmes qui sont complémentaires et différents. Et puis, dernière chose, on s'est dit comment on fait pour, nous, municipalités, encourager la gestion en commun et les communs. Et du coup, on a, à l'époque, c'était l'époque de Nuit Debout, on est allé à la rencontre du mouvement Nuit Debout et on a proposé de créer une assemblée des communs dans la ville de Grenoble, avec cette volonté d'avoir un pied dans l'institution, un pied dans les mouvements sociaux. Je pense qu'on ne s'attache pas forcément au lieu, on s'attache plus à la façon de faire ensemble. Forcément, à un moment donné, ça se fait à un endroit. Donc la question du lieu se pose. Par exemple, les chantiers ouverts au public, on va faire quelque chose sur l'espace public. Nous, maintenant, on fait des chantiers ouverts au public plus sur le bâtimentaire, donc par exemple des petites rénovations dans des écoles, des choses comme ça. Donc forcément, il y a ça se fait dans un espace, donc la question du lieu, elle existe bel et bien. Mais ce n'est pas à la porte d'entrée. Et après, on s'intéresse aussi à la gestion en commun des biens communs, les ressources que peuvent être, par exemple, l'eau. Donc, dans l'histoire, la ville de Grenoble a remunicipalisé l'eau à la suite des histoires de corruption dans les années 80. On est la première ville en France à avoir remunicipalisé l'eau. Et tout de suite, on a mis en place une gestion en commun. Les habitants qui s'étaient battus pour cette remunicipalisation ont une place dans le conseil d'exploitation qui gérait la ressource. Je trouve la meilleure réussite, elle est née en 2017 d'une demande d'habitants qui avaient un projet juste à côté de l'hôtel de ville, en bas d'un immeuble. Ils avaient envie de réaménager leur espace en pied d'immeuble. Et puis l'élu de secteur le disait, bah, c'est pas une priorité de la ville, mais votre projet est top, ça fait plein de fois que vous m'en parlez, je vois, ça serait dommage qu'on n'arrive à rien faire en fait. Et ils se sont dit, on va faire ensemble, on a des agents compétents pour monter des meubles avec des palettes, réaménager les espaces, faire un petit coup de propreté. Vous êtes motivés, moi je suis motivée en tant qu'élue, et du coup, paf, en 3 semaines, la municipalité a mis à disposition des agents pour la formation, du matériel, et hop, le projet a été réalisé, et ça a été un grand moment d'émotion. Et c'est comme ça qu'est né le dispositif Chantier ouvert au public, qui n'est pas un dispositif pensé par l'institution, qui est un dispositif qui est né de la rencontre d'un élu et d'habitants qui avaient un projet.
Ah, mais qu'est-ce que ce serait mieux s'il y avait plus d'élus comme ça dans nos collectivités ? Sur ce coup-là, ils ont vraiment fait preuve de jugeote, je trouve.
Et puis ça favorise aussi un renouvellement des missions pour les agents publics, tu vois, les techniciens, techniciennes, tu crois pas ?
Oui, il semblerait que certains soient très contents, ça fait de la nouveauté, ça c'est sûr. Mais pour d'autres, ils peuvent avoir l'impression que ça remet en question leurs compétences, leur pouvoir de décision. Faut faire attention, ça ne doit pas être si simple.
Ah oui, non mais je vois, effectivement. Bon, après, ça se comprend, mais sur le long terme, c'est vraiment une belle manière d'associer les citoyennes et les citoyens à la fabrique de leur ville.
Et d'ailleurs, j'irais bien en parler au service Nature en Ville. Regarde, ils ont un stand juste là. Je sais pas toi, mais moi je me demande souvent si les espaces publics, nos parcs et jardins, sont considérés comme des communs.
Je m'appelle Lisa Panicot et je travaille au service Nature en Ville de la mairie de Grenoble. Et je suis chargée de communication et événementiel pour ce service Nature en Ville. Aujourd'hui, on est sur un dispositif à la ville qui s'appelle Végétévolution, dans le fait qu'il y ait de plus en plus de Grenoblois qui s'approprient des espaces en ville. Et surtout, la mairie donne de plus en plus de fonds aussi pour donner des espaces aux habitants, en fait, pour que ça soit des espaces qui soient gérés par les habitants ou des collectifs d'habitants. Et ça, je pense qu'il y a une vraie évolution. Mais effectivement, il y a ces dispositifs-là qui ont émergé et qui ont permis de beaucoup développer, notamment le jardinage collectif en ville. Après, par exemple, je pense au jardin Célatex, il était là depuis... Enfin, il est historique, ce jardin-là. Et il n'est pas du tout... C'était pas du tout un jardin qui a été créé par la ville de Grenoble. Ça, c'est vraiment un collectif d'habitants qui a créé cet espace et ce jardin Célatex. Donc, en fait, je pense qu'en fait, on est dans une direction où la mairie donne de plus en plus de moyens à l'habitant de pouvoir se créer ou se réapproprier des morceaux d'espace public. Et il y a les budgets participatifs aussi qui vont dans ce sens-là à certains endroits, qui permettent à des projets d'habitants ou à des projets même de commerçants ou en tout cas de personnes qui sont à Grenoble de pouvoir influer sur la création d'espaces publics. Donc oui, je pense que vraiment on va vers quelque chose qui permet de plus en plus aux Grenoblois de manière générale à s'approprier leur espace public. Et c'est vraiment hyper important c'est hyper important de réfléchir l'espace ensemble et pour aussi qu'il y ait plus d'acceptation de l'espace. Parce qu'en fait, si l'habitant il est partie prenante de la construction de son espace, il va beaucoup mieux accepter aussi toute la phase de travaux qui va être derrière et il va aussi beaucoup plus s'approprier son espace par la suite, sachant qu'on sait que quand on crée des bancs, en fait finalement les bancs, on s'attend à ce que des gens vont s'asseoir dessus, mais en fait peut-être qu'il y a des gens qui vont mettre des chanifis dessus et qui vont faire de la musique, peut-être qu'en fait il y a des gens qui vont monter sur des bancs pour faire, crier ou pour raconter des choses, en fait on n'en sait rien. En fait il faut se dire aussi que le mobilier et que tout ce qu'on met en place, ça peut être détourné. Faut pas que ça soit dangereux, bien entendu, mais en fait, y a beaucoup, beaucoup de possibilités, en fait.
Je te verrais bien, toi et ton gros ghetto blaster sur les bancs publics.
T'as pas connu mes années hip-hop, hein, ça se voit.
Là, comme ça, c'est vrai que j'ai du mal à t'imaginer, c'est sûr. En tout cas, j'aime bien leur philosophie.
Après, il n'y a pas que la ville dans l'aménagement des espaces publics. Il y a aussi les urbanistes, les architectes, la métropole, le département. C'est quand même un sacré millefeuille, le bazar, hein.
Ouais, tu penses que les urbanistes architectes sont formés à toutes ces pratiques de participation citoyenne, d'ailleurs ?
Alors, formés, je sais pas. En tout cas, si c'est pas le cas, je pense qu'il y a de quoi s'en empresser.
Bon, c'est bien parti pour que ça change à Grenoble. Beaucoup d'étudiants et étudiantes bossent sur des projets avec la mission commune de la ville.
Au fait, parlons peu, parlons bien, les tiers-lieux dans tout ça, niveau rapport avec les communs, on en est où exactement ?
Les tiers-lieux par rapport à ça, alors, moi j'aime bien plutôt parler en fait de lieux intermédiaires, qui sont en fait des lieux qui se sont glissés en fait dans des interstices, qui sont des interstices... que ce soit en fait des interstices vraiment au niveau urbain, dans des lieux un peu délaissés ou qui étaient des friches par exemple, donc des lieux qui sont nés dans les friches, ou alors dans des interstices aussi de notre quotidien, du fait de la mutation des formes de travail, de la diversité en fait des pratiques que les personnes peuvent avoir, artistique ou au niveau du travail. Donc finalement des personnes qui ont commencé en fait à aussi finalement travailler un petit peu différemment et donc dans des lieux différemment ou avec des horaires un peu différents et du coup qui correspondaient pas du tout en fait à ce qui se faisait avant par exemple dans les espaces dits tertiaires. Alors après le mot tiers-lieu en tant que tel et tout aujourd'hui il a été réutilisé comme une forme un peu de l'appel par des politiques publiques. C'est pour ça qu'on préfère parler de lieux intermédiaires pour garder aussi en fait le lien avec l'histoire de ces lieux, l'histoire de ce mouvement en fait de personnes qui ont commencé en fait à mener des pratiques un peu qui étaient un peu différentes. Donc c'est vrai que des fois en fait voyant en fait des tiers-lieux où c'est plutôt en fait un agrégat d'individus qui en fait ont des pratiques économiques et parfois même de survie. Dans les squats, la dimension c'est vraiment de réussir à sortir de ces rapports sociaux-là et de créer d'autres rapports sociaux qui sont en fait des rapports sociaux qui peuvent être beaucoup plus sur de formes d'entraide et donc en réinterrogeant notre rapport au travail, notre rapport au genre, notre rapport aux classes sociales et en fait tous les phénomènes en fait de domination qu'on peut avoir les uns par rapport aux autres. Et souvent dans les tiers-lieux, ces dimensions sont aujourd'hui pas si présentes que ça.
Moi, j'ai pas de définition des tiers-lieux. Ce que je sais, c'est que je pense que c'est, il y a plein d'atomes crochus et de convergences, en fait, entre la dynamique de d'occuper un lieu avec plusieurs fonctions, plusieurs raisons d'être, de réunir les bons acteurs et d'intégrer comme, enfin, je sais pas, la puissance publique dans l'idée de développer ce type d'espace. Et l'idée que, effectivement, on réponde, par ailleurs, a aussi des groupes d'individus, de collectifs qui s'entendent sur une ressource pour déterminer des bonnes règles de protection et de préservation. Et donc, je dirais que c'est deux façons assez parallèles d'arriver à l'idée que il faut laisser plus d'horizontalité, de place à l'initiative, quelle qu'elle soit, de trouver en tant qu'acteur public sa juste place et effectivement de ne pas s'interdire de briser j'irais des principes de monofonctionnalité, des choses qui en fait enfermaient les bâtiments dans des situations qui n'étaient plus durables. Donc je pense qu'en plus c'est aujourd'hui juste salutaire en fait de penser la polyfonctionnalité. Les usages différents. Là aussi, ça interroge l'acteur public, mais là, on n'est pas pour dire que c'est un problème. C'est une opportunité parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment dans quelle ère en fait on va évoluer. Donc, être préparé à avoir plus de souplesse dans l'occupation des lieux en intégrant le maximum d'acteurs, je pense que c'est effectivement prendre un peu d'avance sur des situations qui pourront être complexes demain et où on aura besoin d'un peu tout le monde.
C'est sûr que ces sujets, ça interroge la posture de toutes et tous. Les acteurs publics, les citoyens, en passant par les financeurs, les partenaires, tout le monde quoi.
Et je vois mal comment ça pourrait encore fonctionner comme avant.
Il y a aussi un risque d'amalgame finalement entre ces deux notions. Et certaines personnes d'ailleurs s'en méfient d'autant plus.
Ah bon, pourquoi ?
Bah, parce que dans le processus de commoning, comme le disait Federica, il y a vraiment cette idée de la gouvernance par tous et toutes, de l'équité, de la co-responsabilité aussi, de l'importance de l'usage et de la pratique, plutôt que de la thune, quoi, tu vois.
Je vois. C'est celui qui fait et contribue, qui peut participer et prendre les décisions, en gros.
Ouais.
C'est d'ailleurs ce que racontait Elinor Ostrom, une Américaine qui a obtenu le prix Nobel d'économie en 2009 pour ses travaux sur la gestion des biens communs, tout à l'heure.
Et d'ailleurs, en parlant d'autres manières de faire ensemble, c'est quoi exactement ce projet de la ville chantier ouvert au public ?
Je m'appelle Yann Mouluburu, je suis agent à la sécurité sociale, mais je crois que la raison pour laquelle on se rencontre, c'est que je suis conseiller municipal de Grenoble, délégué à l'urbanisme transitoire et au chantier ouvert au public. C'est le maire de Grenoble qui m'a proposé cette mission-là. Au début de ce mandat, considérant que dans le mandat précédent, j'avais commencé à faire de l'urbanisme transitoire sur l'espace public, puisque pour le coup j'étais en charge des mobilités à l'échelle métropolitaine, et il souhaitait que, au-delà de la démarche expérimentale qu'on avait pu faire sur l'espace public, on puisse déployer une politique publique structurée, un peu moins artisanale, et de façon à ouvrir nos espaces publics ou bâtimentaires à de la capacité de tester, d'expérimenter, de faire le choix d'un peu de créativité, parce que c'est aussi ce que ça permet. Et pour le coup, on a fait un chantier ouvert au public au volet vert, où ce sont les occupants eux-mêmes qui ont fait une partie des travaux. Alors évidemment, la ville avait fait les travaux dits sécuritaires, d'électricité, de plomberie qui étaient nécessaires à l'occupation, mais tous les travaux d'aménagement ont été faits par les occupants eux-mêmes. C'était leur volonté et c'était un nouvel objet de travail pour les services municipaux que de se mettre en situation d'accompagnement et non plus en situation de décision sur ces travaux-là. Ça a permis probablement des aménagements plus adaptés aux besoins des collectifs, parce que pensés par le collectif lui-même. Faire le parcours chemin faisant, réunion après réunion, de la redécouverte de la dignité au-delà des conditions matérielles, mais de la dignité par le droit de dire, de s'exprimer, d'exprimer un besoin, et de pouvoir participer à la définition de ce qu'est un commun.
Il est cool ce programme quand même.
Et bah d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai croisé certaines personnes du projet Villa Clément ce matin. C'est un tiers-lieu solidaire qui a remporté le concours Graines de Projet organisé par la ville il y a quelques années. Je suis sûre que tu vas kiffer.
Il y a plusieurs années, on y travaille dans le cadre de l'appel à projet qui avait eu lieu sur Grenoble qui s'appelait Graines de Projet. Alors de mémoire, je crois que c'était en 2017, me semble-t-il. Voilà, où nous avions répondu à cet appel à projet pour imaginer à comment redonner vie à cette belle bâtisse sur les quais, magnifique décor, où donc les associations, donc c'était essentiellement démarrage en tout cas, le relais aux ANAM, l'association Oiseau Bleu, l'association Adams ADFE qui est un chantier d'insertion, et on s'est réunis. Historiquement, ce sont des associations qui travaillaient déjà ensemble et on a réfléchi à pouvoir imaginer un peu ce projet un peu hybride. Ensuite, d'autres associations locales ou d'habitants nous ont rejoints et notamment RSA 38 qui fait également partie du collectif Villa Clément puisqu'on a constitué une association. Le projet de cette bâtisse est à la fois d'avoir, dont il y a plusieurs étages, hein, à la fois d'avoir un peu un lieu de citoyenneté, d'ouverture sur le quartier, hein, le quartier Saint-Laurent, la proximité avec la Tronche, la proximité avec Grenoble. Cette bâtisse, elle concernera aussi à un étage un chantier d'insertion à travers Adams ADFE et puis également des logements dans ce qu'on appelle des logements pensions de famille qui sont des logements adaptés pour des personnes ayant vécu un parcours de vie pas toujours facile et surtout en fort isolement social. Et tout ça va cohabiter dans cette maison. Donc c'est un super pari parce que c'est pas forcément évident. L'ambition est aussi d'adapter et de changer nos façons de voir, de travailler, d'habiter, d'inclure aussi dans le projet, et ça je l'ai pas dit, d'inclure aussi dans le projet la parole des personnes accompagnées, la parole des personnes logées et qui sont venues apporter un peu leur point de vue, leur vigilance en disant il faudrait penser à ci, il faudrait penser à ça, ou nous on aimerait imaginer que ce soit différent, d'inclure véritablement aussi leur capacité à nous aider et à témoigner de ce qui serait bien aussi pour les personnes qui vont vivre ici.
Moi, je suis président d'une association qui s'appelle RSA 38. RSA veut dire réflexion pour des solutions d'avenir et non pas rente sociale assurée. Et avec Pierre-Louis, qu'on est les deux créateurs, on a créé ça il y a maintenant 10 ans cette année. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a 10 ans, à Mantes-la-Jolie, il y a quelqu'un qui s'est immolé par le feu parce qu'on lui refusait son RSA parce qu'il lui manquait une photocopie. Et avec Pierre-Louis, on a décidé de faire quelque chose. Donc on a monté l'association RSA 38. Moi, j'ai fait une marche entre Grenoble et Paris pour justement porter la parole des allocataires. Et depuis 10 ans, on porte la parole des allocataires aussi bien dans nos droits que dans nos devoirs. Et ce qui a été bien dans ce projet, c'est qu'une fois, pour une fois, notre parole vaut celle de Christelle. Et qu'au début, on est arrivé avec chacun nos méfiances, etc. Et aujourd'hui, il n'y a plus de méfiance, il n'y a que de la confiance. Donc c'est possible, on peut le faire.
Alors moi, je m'appelle Pierre-Louis, je suis aussi allocataire du RSA. Moi, ce qui me plaît dans la démarche Villa Clément, c'est qu'on fait la démonstration, au vu et au su de tous, parce que vu qu'on a répondu là sur Grenoble, ça se sait, les précaires ont non seulement des solutions et savent les mettre en œuvre.
Aujourd'hui, on est en phase de recherche de financement sur ce projet. Donc ça prend du temps, puisque le grain de projet était clairement « on vous donne un lieu, mais vous vous débrouillez ». Ils nous ont vraiment accompagnés et on a pu construire le projet de la Villa Clément, qui est le seul projet de grain de projet qui est vraiment un espace où tout le monde peut échanger, ce qui n'est pas le cas par ailleurs.
Je t'avais dit ou pas que t'allais adorer ce projet ?
Honnêtement, Pierre-Louis et Alain sont vraiment impressionnants. Et c'est extrait que des personnes qu'on ne voit pas dans les cercles des décisions d'habitude, comme tu le disais tout à l'heure, soient au cœur du réacteur cette fois-ci.
En tout cas, moi j'ai vraiment hâte de voir ce lieu ouvert. Et la suite, à ton avis, ça donne quoi ?
La suite de quoi ?
La suite pour les communs. Parce que moi je me demande quand même comment on pourrait faire différemment et intégrer au maximum ces approches dans toutes les pratiques de la société qui ont besoin d'être réinventées.
Je pense qu'on ne fait pas beaucoup attention à ça, de comment les collectivités sont capables d'accompagner ces processus-là et comment les collectivités territoriales elles sont capables de se créer des nouvelles valeurs, ce qui n'est vraiment pas évident dans un contexte où depuis 30, 40 ans, ils ont écrasé par l'idée de l'attractivité, du fait qu'il faut attirer des investisseurs, que ce n'est que comme ça qu'on peut développer les territoires, etc. C'est très, très écrasant et de voir qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a des techniciens qui sont un peu invisibles dans les collectivités, qui arrivent à faire passer des choses. des élus qui ont le courage de mettre en avant des politiques un peu différentes. Ça, je pense que c'est là où il faut regarder comment les valeurs évoluent. En se disant que ça ne se fait pas sans la mobilisation des citoyens. Qui sont la force qui soutient, qui peut soutenir ces transformations politiques.
On peut penser effectivement le territoire comme un commun et notamment repenser les territoires à l'aune des dépendances, des interdépendances, de justement savoir est-ce que certains héritent d'une part négligée, problématique du territoire alors que d'autres en bénéficient. Et donc ça nous amène à repenser un petit peu toutes nos interconnexions puisque dans le cas des communs négatifs, en fait, la problématique elle est un petit peu inversée par rapport aux communs. Dans le cas des communs, on a l'impression qu'il y a un rapport quasiment naturel entre le collectif qui s'occupe du commun et la ressource. Ce qui est faux, mais on a un peu cette impression-là. C'est le commun de la communauté. Puis il n'y a pas d'autres discussions à avoir. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça dans nombre de cas. Dans le cas des communs négatifs, il y a un élargissement de cette notion de commun, puisque souvent, on a des territoires qui vont être des territoires à l'abandon, qui vont être des territoires négligés, qui vont être des territoires pollués, qui vont être des territoires... Mais ils ne sont pas pollués d'eux-mêmes. Souvent, ce sont des lieux de relégation. Ils sont pollués parce qu'il y a d'autres activités ailleurs. Ils sont pollués parce qu'on en a fait des lieux de relégation, etc., etc. Et donc, toute la question qui se pose pour rapport au traitement de ces réalités, là, de ces communs négatifs là, c'est comment est-ce qu'on arrive à en faire un traitement justement qui soit un traitement véritablement commun, donc que ce soit pas uniquement les personnes qui sont au contact de ces territoires, de ces lieux qui s'en occupent, mais qu'on arrive à remonter aux responsabilités, aux causalités, pour faire que ceux qui ont éventuellement un mode de vie, un mode de production ou autre qui fait qu'il y a aussi à côté des lieux de relégation, eh bien comprennent que ces lieux ne sont pas simplement des externalités négatives dont il n'y a pas lieu de s'occuper, ou simplement en internalisant les conséquences par le marché, en dédommageant par exemple les gens ou autres mécanismes économiques qu'on peut imaginer, mais qu'en fait ils sont partie prenante de l'existence même de ces lieux-là, et que souvent en fait leur activité a pour condition le fait qu'il existe à côté des lieux de relégation. Donc si on veut repenser justement d'autres solidarités et d'autres manières de faire territoire, il faut justement élargir le commun au-delà de la communauté qui fait face à un certain nombre de communs négatifs pour associer d'autres personnes. Et ça peut passer effectivement aussi par le conflit, par le rapport de force, mais ça fait partie du travail qu'il va falloir faire sans doute dans les prochaines années.
Cette gestion de ces ressources-là à long terme est la question qui amènera à dire est-ce que ça a été des communs. C'est trop tôt. Mouvement des communs, c'est un mouvement ancestral. On parle de ressources qui ont été transmises de génération en génération. Et l'enjeu pour l'Assemblée des communs, c'est produire ce type de ressources. C'est pas juste de faire pendant 2-3 ans un truc sympa et puis après ça s'arrête. C'est réapproprié par le marché ou par la collectivité publique. Donc la question qui sera celle qui est devant nous, c'est la gestion à long terme de ces ressources-là et de quelle façon, je pense aussi aux bâtiments qui ont été transmis, parce qu'il y a un certain nombre de bâtiments qui ont été transmis à des groupes d'habitants, à des associations, dans tous les quartiers de la ville, et il y a beaucoup d'expériences qui ont eu lieu, y compris avec des débuts de conventionnement qui permettent de sortir des occupations précaires. Je pense au bail amphithéotique du 38 par exemple, qui est un début de se dire peut-être que ces ressources vont devenir des communs.
Ça, c'est clair que la question de la pérennisation, c'est LA question brûlante du mouvement des tiers-lieux.
En fait, c'est souvent la question du foncier qui pèse. Mais en même temps, niveau patrimoine, il y a des solutions, tu vois, comme les baux amphithéotiques.
C'est d'ailleurs ce qu'a fait la ville avec les bâtiments de graines de projet. Un peu comme ce que disait David pour le lieu, le 38.
Et quand tu vois que la puissance publique a vraiment du mal à s'occuper de tous les bâtiments dont elle hérite, avec ce dispositif, ça permet à ces lieux de redevenir de vrais espaces de réinvention des pratiques citoyennes.
Et de mise en place de réponses concrètes et locales à des enjeux de société.
C'est vrai que ça fait un peu peur parce qu'on est en train de redécouvrir que depuis le Moyen-Âge, on a des formes de gestion en commun, d'espaces naturels, de forêts, d'alpages, d'eau, de ruisseaux, de réseaux d'irrigation, et etc. Qu'on a voulu un peu oublier, la France en particulier, qui aime pas trop ce genre d'initiative. On a un peu trop vu que les problématiques de gestion, de propriété, c'était soit un problème entre public et privé, et que c'était assez binaire finalement, alors que les communs amènent une troisième voie.
Bon, voilà un bon mot de la fin. Les communs comme troisième voie. Voilà, je te propose qu'on reste là-dessus.
Ouais, enfin, il y a quand même du boulot, mais je pense que tout ça va gagner du terrain dans les imaginaires ces prochaines années. Je croise les doigts.
Bon, en tout cas, ça m'a complètement ouvert les yeux sur tout un tas de trucs que je connaissais pas cet épisode. Et en même temps, je vois beaucoup de parallèles avec le mouvement des tiers-lieux, des ambitions communes évidentes.
Enfin, moi, je vois surtout qu'il y a un enjeu à faire connaître ce que sont les communs et quelles formes ils peuvent prendre. C'est matériel et immatériel à la fois.
C'est justement pour ça que les Sarayaku protègent autant la forêt que leurs savoirs ancestraux. En fait, pour eux, c'est indissociable.
Et comme le disait la prix Nobel Elinor Ostrom, le plus important dans les communs, c'est pas la nature du bien ou de la ressource, c'est l'auto-organisation. C'est être capable de créer des règles d'usage de façon soutenable, responsable, durable pour les générations futures.
Et quand on voit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, bah rien qu'avec le sujet de l'eau ou des terres agricoles, ça redonne quand même un semblant d'espoir, avec des solutions qui existent déjà finalement, et depuis bien longtemps.
Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est surtout de fédérer un maximum autour de la préservation de ces communs, qui sont là depuis, comme tu le dis, des centaines d'années.
Ouais, avec l'intérêt aussi de créer des solidarités et des coopérations entre les territoires de tout type, quoi.
Ben finalement, c'est exactement ce qui s'est passé ici à la Biennale pendant 3 jours. Mettre en commun et créer des synergies. Allez, allez, Débo, trêve de discussion, faut couper le cordon, là, avec Grenoble. On doit filer.
Est-ce que t'es prête à te faire un petit col à vélo? On fait la course?
Ah, je suis carrément chiche, t'es pas prête! Allez, ciao la compagnie! Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode hors série de Tas de beaux lieux, réalisé avec le soutien de la ville de Grenoble. Un grand merci à François Touchard pour le mixage, à Hugues et Michon pour les musiques originales, merci aussi aux merveilleuses équipes d'Hôtel 71 pour le studio, et merci à toutes les organisatrices et organisateurs et partenaires de l'événement de la Biennale des villes en transition.
Si vous avez aimé ce podcast, faites-vous plaisir, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, ce serait un beau coup de pouce pour le projet. Et en attendant le prochain épisode, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et LinkedIn. Vos remarques, recommandations, petits mots doux nous aident à avancer. Donc n'hésitez pas à nous écrire.
Salut, salut !